Eh bien, je vous laisse la main. Vous pouvez partager votre support.
Est-ce que vous voyez bien ?
Oui, c'est parfait.
Oui. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie l'Université de Caen, les masters, toute l'équipe qui a organisé cette journée pour m'avoir invitée. Et je vais vous présenter ce travail avec Willis Dong, qui est doctorant sous ma direction à l'Université de Lille. On a préparé le diapo à deux. Alors, remerciements à tous et aussi au master de psychosocial conduite du changement, et puis bien sûr au public qui est présent et aux auditeurs qui sont en ligne également. Donc je vais plus parler de la partie travail et psychosocial puisqu'on n'en a pas encore parlé, pour rappeler que le harcèlement s'appelait psychological terror, et c'est Lehman qui l'avait mis en évidence en parlant à l'époque déjà de propos d'agissement hostile, d'une répétition d'une ou plusieurs personnes envers plusieurs personnes. Et puis Emerson, qui est le chef de file au niveau des travaux sur le harcèlement dans le nord de l'Europe, a repris une définition très proche avec la répétition et la durée des actes. Et puis Rigoyen en France, qui a été très médiatisé, qui est psychiatre et psychanalyste, donc a plus parlé des effets en parlant d'atteinte à la personnalité, à l'intégrité psychique et physique et à la dignité des personnes, le harcèlement mettant en péril l'emploi et dégradant le climat de travail. Et puis j'ai proposé une définition en 2011 dans la première version d'un ouvrage sur le harcèlement, en insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un processus psychologique qui est induit dans un contexte alors là, de travail, mais qui est aussi caractérisé par une synergie répétée d'agissements. Cette synergie correspondant à plusieurs types d'agissements et plusieurs sources possibles. Et donc, bien sûr, l'atteinte aux conditions de travail et l'intégrité. Et la souffrance, la conséquence étant la souffrance des victimes. Au-delà de la répétition et de la durée, qui sont des caractères centraux pour définir toute forme de harcèlement, il y a... Alors, on va mettre une parenthèse sur le harcèlement sexuel, parce qu'au niveau de la juridiction, il suffit d'un agissement. Au-delà de cela, il y a deux éléments caractéristiques, c'est l'absence de soutien ou d'aide envers la victime et le silence ou omerta que l'on retrouve très très souvent. Donc, on retrouve dans la littérature, il faut aussi rappeler que l'omerta... Hein, ne concerne pas, bien sûr, que le harceleur, qui bien sûr va se taire, mais aussi la victime et les témoins, les bystanders, qui vont également se taire. Et tout cela contribue au processus de harcèlement. Du côté du cyberharcèlement, on a donc des définitions, comme celle, la définition initiale de Piotrowski sur les comportements d'échange social inappropriés via des technologies et des communications mises en ligne ou sans fil. Et puis, la définition de Vranges, plus récente, c'est tout agissement dans un contexte de travail se produisant par l'usage éthique et soit de manière répétée et sur une certaine période, soit effectuée au moins une fois, mais qui constitue une intrusion dans la vie privée de la personne en la soutenant, en la soumettant potentiellement à un large public, qui génère l'incapacité de se défendre et l'impuissance. Autre définition, mais qui est plus éloignée à mon sens, des messages anonymes, frauduleux, agressifs, non désirés, la diffusion de rumeurs, des menaces, des attaques, des appels téléphoniques non désirés, des messages malveillants et abusifs. Voilà pour les définitions. Alors, je pense que maintenant, le LIPT est assez connu. Tous les médecins du travail l'utilisent quand ils diagnostiquent un harcèlement moral, notamment au travail. LIPT, donc, c'est le Lehman Inventory Psychological Theory, qui comprend 45 agissements qui ont été répartis par Eman suite à une analyse factorielle en cinq grandes catégories: empêcher la victime de s'exprimer, isoler la victime, la déconsidérer, l'humilier auprès de ses collègues, et ensuite donc discréditer cette victime dans son travail, compromettre la santé. Donc cette grille de 45 agissements, bien sûr, peut être allongée, on peut trouver jusqu'à 60-70 formes d'agissement, mais c'est pour vous dire que quand on parle de synergie, on n'a pas toujours conscience de tout ce qu'une victime peut recevoir dans un même temps, sous des formes variées, ce qui fait que elle s'attend à un type d'agissement, elle en reçoit un autre, et par une autre personne. Donc, ça va mener à une situation qui vive de stress permanent où elle ne sait plus à quoi s'attendre, tant on va dire, l'arsenal des harceleurs est varié, et que ce soit chez les adultes du travail ou les jeunes. Alors, j'ai repris ces mêmes agissements et en vert, j'ai pointé ce qui pouvait être utilisé dans le cyberharcèlement au travail. Et donc, on voit que si l'on reprend les mails, il y a déjà beaucoup d'agissements qui peuvent être utilisés via les nouvelles les technologies. Donc, refuser la possibilité de s'exprimer, donc couper le son, exclure, sortir une personne d'un groupe de parole, interrompre constamment, hurler sur la personne devant les autres. Grégory Michel en a parlé, notamment pendant les Jeux. Donc, il y a aussi cette tendance à invectiver, donc critiquer, menacer. On retrouve dans l'isolement aussi ne plus adresser la parole, interdire à une personne de parler, et puis voilà, de nier sa présence. On retrouve aussi tout l'arsenal qui consiste à humilier ou déconsidérer, ridiculiser, railler une infirmité, quelque chose au niveau de l'apparence physique, et puis les convictions des personnes, et bien sûr les personnes qui sont malades. Alors ça va aller de pair avec la discrimination, qui ont un stigmate, peuvent être touchées. Dans le fait de compromettre la santé, on va aussi avoir des menaces de violence, des menaces d'agression, etc. Donc, d'autres grilles existent. Hein. Si on regarde les travaux de Marie Pesé, qui est très médiatisée, elle parle des techniques d'isolement, des techniques persécutives, et on va en trouver aussi dans le cyberharcèlement, la surveillance donc des personnes, des communications, des techniques d'attaque du geste de travail, des injonctions paradoxales, la mise en scène de la disparition de la personne, la reddition émotionnelle par hyperactivité. Quand on met toujours derrière voilà, les nouvelles technologies, les écrans, on ne dort plus, on devient épuisé. Et puis les techniques punitives, donc de toute forme, via les mails ou les réseaux sociaux. Donc, face à ces techniques, il y a tout un arsenal juridique que les avocats peuvent utiliser, bien sûr: détournement du lien de subordination, des règles disciplinaires, détournement du pouvoir de direction et du pouvoir d'organisation. Quatre exigences minimales de la définition du cyberharcèlement, c'est bien sûr, pour reconnaître un cyberharcèlement, qu'il y ait un contexte électronique, qu'il y ait une intention perçue, qu'il y ait une nature répétitive et durable du cyberharcèlement, et qu'il y ait une inégalité de pouvoir entre la victime et l'auteur. Alors ça, c'est un ensemble de chercheurs qui le disent. Hein. Alors j'ai continué à explorer les points communs, parce qu'il y a quand même un certain nombre de recherches où on mesure à la fois le harcèlement de face à face et le harcèlement à distance. Donc j'ai essayé de voir les points communs, mais aussi les points de divergence entre harcèlement face à face et harcèlement à distance. Donc, dans tous les cas, on a des agissements négatifs, de la répétition, des conséquences graves sur la santé psychologique des victimes. Alors, Eleman parlait de terreur psychologique. Les collègues intervenants en ont parlé. Il y a bien cette peur aussi de retourner dans l'établissement. Et puis tout un ensemble de phénomènes physiques au niveau de la peau, au niveau de voilà, qui sont liés à un stress. Alors, l'appellation stress post-traumatique, j'en ai parlé dans mon ouvrage, parce que je l'ai fait relire, étant de psychosocial et travail, je l'ai fait relire par des cliniciens. J'ai toujours trouvé qu'elle était limitée, parce qu'on n'est même plus dans un stress post-traumatique, parce que le trauma se poursuit toujours. Donc la personne ne récupère pas, elle n'est pas dans le poste, elle est dans un processus continu. Donc ce qui fait qu'elle s'épuise et qu'à un moment donné, elle va développer des idées noires. Donc des conséquences graves sur la santé physique, ce sont des points communs avec le harcèlement traditionnel, donc des conséquences qui sont aussi liées aux relations et au pouvoir et au contrôle. Donc ça, ce sont des points communs. Quand on parle de pouvoir et de contrôle, c'est que dans l'esprit de la victime, la relation est asymétrique. Elle n'a plus le pouvoir. Et alors, on ne parle pas que du pouvoir dans les organisations. Il peut s'agir tout simplement du pouvoir qui est pris par une personne ou par un élève sur un autre. Donc, c'est beaucoup plus large que le pouvoir au sens organisationnel. Alors, excusez-moi pour mes diapos invasives. Donc, ce qui est amplifié du côté du cyberharcèlement, enfin, à mon sens, c'est l'amplification de l'isolement. La personne se sent seule, elle est seule face à son écran, soit dans son bureau, soit pour des jeunes dans dans leur chambre. Et il y a en parallèle ce caractère public qui est décuplé. Il y a aussi la perte de contrôle de la personne sur la diffusion. Elle ne sait plus qui lit ce qu'on dit sur elle. Donc ça fait monter l'anxiété et ça fait monter aussi les émotions parasites qui sont bien sûr la honte. Voilà, et qui vont étouffer en quelque sorte les émotions normales qui devraient émerger, qui sont la colère ou la tristesse ou la détresse. Donc l'impossibilité de se défendre, puisque la personne n'a plus accès, elle ne sait même plus à qui c'est diffusé, l'absence de répit et de récupération, car il y a une multiplication des supports et de transmissions. Un qui-vive qui est lié à la télépression. Donc ça, ce concept de télépression, je vous invite aussi à lire, il y a une littérature là-dessus, en anglais télépression. C'est donc la pression que la personne, c'est un peu comme une addiction, à toujours revenir voir sur les technologies ce qu'on a pu dire d'elle ou ce qu'on a pu transmettre. Donc c'est quelque chose d'irrépressible qui fait que la nuit, cette personne va continuer à regarder. Et puis bien sûr le stress post-traumatique qui n'a pas de fin. Il y a des éléments du côté des harceleurs qui sont une illusion. C'est-à-dire qu'on est dans un monde digital, dans un cyberespace, dans du virtuel, sauf qu'il y a quand même bien une réalité derrière tout ça. Et l'illusion de collégiens, de lycéens, d'étudiants, voire de salariés, c'est que quand on est derrière son écran et qu'on écrit quelque chose, bon, voilà, on est à distance, on est plus ou moins intouchable. Et donc, en même temps, on a un relâchement des normes de citoyenneté, on va dire organisationnelle et civile. Un relâchement des normes de respect et de violence, et on va avoir des dérapages plus rapides par mail, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde dans le monde du cyberharcèlement dans les établissements scolaires. On a un dérapage qui peut aussi être un dérapage de mode et qui peut tourner au lynchage collectif. Donc ça, c'est une forme très particulière, mais qui pour moi se rapproche, voilà, été expliqué avec les théories du bouc émissaire de René Girard. Donc, pour moi, c'est un peu distinct du harcèlement en tant que tel. Et la grosse erreur de ce point de vue-là, c'est de penser que bien, tout reste anonyme parce que dans le cadre d'une action en justice, eh bien, on va identifier toutes les personnes, on va identifier tous les émetteurs et les juristes le disent bien, nous sommes individuellement responsables de ce que nous écrivons, de ce que nous postons et de ce que nous disons en ligne. Donc tout cela peut être retrouvé. D'où l'importance du signalement rapide hein, et de garder des traces, capture d'écran, SMS, mail. Donc il faut garder des traces de tout cela et de signaler rapidement. Il y a des plateformes gouvernementales pour signaler. Donc ce qui est aussi compliqué dans le cyberharcèlement, c'est le sentiment d'isolement accru et la multiplication des sources et des messages en simultané et en décalé aussi. Donc voilà, alors je ne vais pas, je vais essayer d'accélérer. Il y a aussi des différences entre conflit et harcèlement, ça aussi il faut bien faire la différence. Donc, vous avez un tableau dans mon ouvrage, et je le laisserai dans le diapo pour bien différencier. Il y a des travaux qui ont consisté à catégoriser le cyberharcèlement. Donc on a un travail très intéressant qui a proposé plusieurs catégories, le flaming, donc c'est fustiger, injurier, donc agresser, le harcèlement, donc évoquer de manière répétée un message offensant, le cyberstalking, donc faire peur, menacer, utiliser un peu son pouvoir, qu'il soit organisationnel ou pas, pour exercer un contrôle excessif sur une personne. Ensuite, on a l'humiliation, la calomnie, le fait de dénigrer. Une autre catégorie, c'est la mascarade. Et là, on a vraiment des détournements parce que l'information donnée par une victime, par une personne à un moment donné, est sortie de son contexte et elle est diffusée à d'autres. Donc, il y a une fraude aussi derrière cela. Il y a aussi le fait de, bah, d'extraire, de décontextualiser et de tricher sur les informations qui sont données. Bah, c'est le cas de, voilà, de la jeune dont parlait Natacha Ouahou, qui était accusée de, voilà, de convoiter le petit ami d'une autre, et puis le fait d'exclure et d'isoler. Donc il y a un autre tableau qui a été établi par Van Gest, qui reprend une partie de ces éléments-là, mais le premier date de 2009, le deuxième est plus récent. Pour Van Gest et Hall, le cyberharcèlement, c'est le cyberstalking. Donc, parce que dans le cyberstalking, il y a une prise de pouvoir, donc il y a une forme d'emprise. Alors, moi, je ne rejoins pas tout à fait Van Gest. Je pense que ces éléments présents dans la catégorisation initiale peuvent tous contribuer au harcèlement, parce que souvenez-vous qu'il s'agit de différentes catégories d'agissements et qu'il y a une synergie de ces agissements vers la victime. Donc, je serai moins restrictive que Van Gest et je garderai un ensemble de catégories. Donc, au travail, il y a bien sûr des facteurs de risque aggravants, il y a la surcharge de travail, mais dans le cadre scolaire aussi, des climats scolaires dégradés, l'approche des examens, la pression, des tâches complexes, le manque d'autonomie des personnes pour aggraver. Il y a des facteurs organisationnels, des climats organisationnels tendus, dégradés, une injustice dans l'organisation qu'on laisse faire, des conflits de valeurs, et puis des climats, des facteurs de risque psychosociaux liés aux maladresses relationnelles et au manque de soutien. Alors, beaucoup de paradoxes hein, du point de vue de la victime, ne pas parler, du point de vue du harceleur, s'exposer sans même en avoir conscience, mais aussi de se défouler. Hein, donc, on pourra reparler du mobile, du harcèlement au fond qui est qui est lié à plusieurs éléments. Et puis pour l'organisation, le fait de ne pas réagir dans certains lycées, on va taire l'affaire, ce qui est grave. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, que ce soit dans les lycées ou dans les grandes entreprises, dans les organisations. Et du point de vue des témoins, un paradoxe, c'est d'assister à quelque chose d'inacceptable et de se taire. Alors, on a plusieurs recherches, hein, une recherche vraiment organisationnelle qui mesure le harcèlement et cyberharcèlement, et on voit que la justice organisationnelle mise en place dans l'organisation est très importante parce qu'elle va freiner la détresse des victimes qui sont touchées. Notamment, on a repéré que la justice interpersonnelle, donc c'est le respect, la courtoisie, la dignité, lorsqu'on prend cela dans une organisation, on va freiner les effets du cyberharcèlement sur la détresse des personnes. Donc, dans la prévention, on retiendra que la justice organisationnelle doit vraiment être mise en œuvre dans les organisations. Alors, il y a d'autres travaux, hein, où on a comparé étudiants et salariés. On voit par exemple que chez les salariés, 18% ont mentionné un cyber comportement agressif lié au travail. Jeunes et salariés partagent les caractéristiques d'être touchés en même temps par du cyberharcèlement et du harcèlement traditionnel. Donc, il faut toujours penser qu'on a les deux. Souvent, on a les deux phénomènes, et donc ça se cumule pour la victime. Voilà, je vais avancer sur tout ce qui est impact sur la personne, on l'a vu, puisque plusieurs cliniciens sont intervenus. Je vais passer. Il y a aussi des modèles qui permettent d'expliquer pourquoi les personnes n'aident pas, n'interviennent pas. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est le silence, c'est l'omerta et l'absence d'aide autour de ces situations. Et donc, il y a tout un ensemble de travaux qui montrent que tout ce qu'on peut dire sur la victime, finalement, peut se retourner contre elle, et ce qu'elle peut dire d'elle peut aussi se retourner contre elle. Donc, il y a une prévention orientée vers la victime à tenir, avec des conseils particuliers à lui donner, et puis il y a une prévention organisationnelle. Au niveau de la psychologie sociale et du travail, je rappelle aussi que pour comprendre l'absence d'aide, il y a l'erreur fondamentale d'attribution, on va avoir tendance à psychologiser. Il y a l'illusion du mot juste, c'est qu'on pense que si une personne est victime, qu'elle soit jeune dans le monde du travail, c'est qu'elle a fait quelque chose. Donc, souvenez-vous du cas de Natacha Aura, où on trouve une information au départ, et donc toute l'affaire est légitimée par cette information au départ. Donc, dans l'illusion du monde juste, une victime ne le serait pas par hasard, une victime reçoit ce qu'elle mérite, et une victime mérite ce qui lui arrive. Donc, vous avez tous, je pense, entendu parler de ces théories. Je pense que, par exemple, si une femme est violée ou agressée, c'est parce qu'elle portait un vêtement qu'elle n'avait pas à porter. Et puis, la théorie du monde sacrificiel de Girard, de l'anthropologue Girard, qui est aussi une théorie bien connue pour comprendre tout ça. Autre théorie qui peut être aidante dans vos travaux, c'est la théorie du courage moral. Alors, il y a eu une thèse d'Akalson, très intéressante, et il est vrai que quand un phénomène dérape, il suffit parfois qu'il y ait une personne qui dise « Attendez, là, arrêtez, stop ». Il suffit qu'il y ait une personne dans un groupe de jeunes ou d'adultes pour dire « Stop » pour que le phénomène s'arrête et pour qu'il y ait une prise de conscience à un moment donné, que les personnes sortent de leur bulle. Et donc, c'est intéressant de lire cette théorie du courage moral et de relire ces travaux-là, parce qu'ils vont permettre de mieux comprendre aussi les déclencheurs de l'intervention pour aider. Donc il y a bien sûr des modèles plus théoriques, hein, je vais passer parce que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Sur les conséquences, on en a parlé, les troubles du sommeil, l'épuisement, les tentatives de suicide, les suicides, des conséquences d'autant plus graves que le processus a duré, que la personne est abîmée et qu'elle est au bout du rouleau. Donc, au niveau de la prévention, comme je le disais, il y a deux éléments à prendre. Il y a une prévention pour la victime. C'est qu'elle apprenne et qu'elle comprenne que Il y a des discours qu'elle peut et qu'elle doit absolument tenir auprès des personnes qui relèvent de la santé, le médecin, le psychologue, l'assistante sociale, et donc il est nécessaire qu'elle parle et qu'elle évacue, mais que par contre, dans l'organisation, il y a des conduites à tenir. Plus elle va chercher à se justifier, plus ça va renforcer. Plus elle va évoquer la gravité de ce que l'on lui fait, plus ça va enrayer, plus ça va mettre des grains de sable dans le processus. Donc toujours s'indigner, toujours insister sur la gravité de ce qui s'est passé au niveau du proviseur, au niveau des professeurs, au niveau des de tout témoin. Et puis, bien sûr, parler de ça. Donc, en travail, on va parler de la prosocialité de la victime, une personne qui ne pose pas de problème, qui travaille bien, une personne qui n'a pas eu de problème auparavant. Et donc, comme je le disais, ne pas se justifier. La personne n'a pas à se justifier. Et puis, bien attribuer ce qui lui arrive au climat, à des éléments externes à elle-même. Ne surtout pas parler d'elle, parce que ça n'aidera pas au niveau de l'établissement et au niveau de l'organisation. Par contre, insister sur la gravité et sur les effets de cette gravité. Au niveau de l'organisation, il y a donc le point de vue de la victime, il y a le point de vue de l'agresseur aussi. Que fait-on par rapport à l'agresseur? Que fait-on par rapport au groupe d'agresseurs? Donc il y a une prise de conscience à avoir par l'établissement et par l'organisation. Donc parfois c'est fastidieux pour les parents d'aller vers une institution scolaire pour dire et redire qu'il y a un problème dans cette institution. Parfois il y a même confusion au niveau des prénoms parce qu'on mélange victime et harceleur, donc ça on pourra en parler. Et dans l'organisation, c'est pareil. Toute organisation, pour sa réputation, va essayer de masquer des phénomènes négatifs qui pourraient nuire à sa réputation. Donc, il y a au niveau de la prévention, il y a la victime, il y a les autres, il y a le harceleur, il y a l'organisation. Tout ça, vous le retrouverez dans mon diapo. Du point de vue du processus à mettre en œuvre, il y a plusieurs phases, on va dire cinq phases. C'est d'abord identifier. Pour identifier, il faut avoir les bons outils. Vous avez là le LPT, donc l'inventaire de Lehman, mais vous avez aussi des inventaires sur le cyberharcèlement en école. Et il faut donc, en plus du LPT, développer des outils à la fois traditionnels et des outils de repérage du cyber, donc avoir les bons outils, repérer la répétition, identifier la nature des comportements hostiles imposés par une ou plusieurs personnes en situation de pouvoir. Pour rappel, en tout cas en harcèlement moral au travail, on a dans à peu près 70% des cas, plus on a au moins deux harceleurs. Donc on n'est pas dans une situation duelle, on est vraiment dans une situation collective où on a au moins deux harceleurs dans la grande majorité des cas. Donc repérage de là où des victimes stigmatisées, pointer les conséquences du comportement, et après avoir identifié, c'est décider d'intervenir. Et ça va dépendre de l'organisation, du collège, du lycée, de l'établissement. Et s'il n'y a pas de décision d'intervention, donc ça va relever, il faut interpeller les associations extérieures et le juridique. Donc développement, s'il y a décision d'intervenir, développement d'un processus de gestion, comment est-ce qu'on fait dans l'établissement, dans l'organisation, on décide d'une sanction en fonction de la gravité, on contrôle les comportements, on veille à ce que le harcèlement cesse, on veille à ce que des comportements positifs se développent et on va faire une analyse du feedback en convoquant en entretien le harceleur et éventuellement son collègue harceleur et la victime séparément pour faire un point sur l'évolution et sur l'arrêt. Alors, je vous invite à lire le livre de Bruno Holbeck qui n'est pas psychologue, mais il est en sciences de l'éducation et il a vraiment sur la fin de son ouvrage, fait un travail très intéressant sur les méthodes de recadrage. Si vous voulez, je vous en parlerai, mais il y a, bien sûr, on ne va pas sanctionner trop sévèrement au départ, mais il y a un recadrage souple à avoir en face à face. Puis, si le harceleur et les harceleurs n'entendent pas, un recadrage ferme à avoir, que ce soit pour du harcèlement ou du cyberharcèlement. Donc, on va en parallèle former les personnels des organisations et d'établissements. On va aussi mener des actions de soutien plus ciblées pour travailler sur les symptômes de stress post-traumatique et vont rétablir un climat de confiance. La quatrième étape, c'est une politique zéro harcèlement dans l'établissement ou dans l'organisation. On va diffuser cette politique dans l'intranet, sous forme de posters, sous forme d'ateliers. On va définir une procédure en cas de plainte. On va développer des outils de gestion dans les organisations. On peut mettre en place une cellule anti-harcèlement. Dans toute grande entreprise, on devrait avoir une cellule anti-harcèlement avec des professionnels de santé, des psychologues, etc. On va développer une veille sur l'intranet. Aussi travailler sur le recadrage et les alertes, une veille sur les réseaux sociaux avec recadrage et alerte. Le rappel de la loi, bon, excusez-moi, ma diapo est vraiment affreuse, mais je vous ai simplement remis les textes de loi depuis 2002 jusqu'à 2022. Il y a des textes de loi, le harcèlement est puni de 2 voire 3 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Ça va jusqu'à 60 000 euros d'amende et le cyberharcèlement est aussi bien sûr puni. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à rappeler cette loi. J'insiste surtout sur le fait que même s'il s'agit d'un groupe, on n'est jamais protégé dans un groupe et que toute personne qui a eu un comportement abusif peut être retrouvée et individuellement coupable. Donc elle risque l'emprisonnement et bien sûr l'amende dans la mesure où elle a eu un comportement. Donc ça c'est la loi. Il y a une fonction signalée sur toutes les grandes plateformes. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran, vous pouvez dire aux personnes de faire des enregistrements. Et donc, il y a bien sûr une loi pour le cyberharcèlement, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, puis 60 000 euros d'amende si la personne est harcelée sexuellement au niveau du cyberharcèlement. Donc au niveau de la prévention, je pense que vous en avez entendu parler, qui contactait bien les travailleurs sociaux, les psychologues, les médecins, les infirmiers des établissements, mais au niveau des étudiants, les centres de santé classiques des universités, les centres de médecine du travail, les plateformes d'écoute, les numéros, mettre à disposition les numéros de prévention du suicide. Les cellules harcèlement devraient avoir une cellule harcèlement dans toute université. J'espère que c'est un travail qui est à l'œuvre dans toutes les universités de France. Dans certaines, il y a des maisons de la médiation. Et en parallèle aussi, il y a au niveau ministériel un pôle national du tribunal judiciaire pour la lutte contre la haine en ligne. Parce que bien sûr, on peut avoir en parallèle le harcèlement. Des propos haineux. Au niveau de la prévention secondaire, travailler sur le soutien, travailler sur le courage moral, travailler sur le rôle de la hiérarchie, sur le rôle des bystanders, valoriser le courage, la reconnaissance, alerter des violences et des incivilités. Au niveau tertiaire, je ne vais pas détailler plus, puisque vous avez déjà eu des interventions de cliniciens, mais il faut souligner le rôle de la télépression aussi et l'importance du détachement de ce qui est toxique. Voilà, je m'arrête.
Merci beaucoup. Du coup, pareil, les questions, elles pourront être gardées pour être posées à la table ronde. On se retrouve à 16h donc pour la table ronde. Merci beaucoup de votre intervention.